France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans une Europe réarmée souveraine.
The choice is none. Europe is ready to step up. 2030
means to have a defense. C'est Ursula von der Leyen qui parle aujourd'hui à Bruxelles. Il n'y a pas de choix, dit-elle. L'Europe est prête à accélérer la cadence, prête pour 2030. Ça signifie avoir une base industrielle de défense qui constitue un avantage stratégique. Bonsoir Léo Peria-Peigné.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur armement et industrie de défense à l'IFRI. Vous avez notamment écrit Géopolitique de l'armement, instrument et reflet des relations internationales. C'était l'année dernière aux éditions du Cavalier Bleu. Donc le coup d'envoi du réarmement européen a été donné ce matin par l'Union européenne avec ce livre blanc-là. L'électrochoc, on l'a tous compris, c'est l'engagement américain en Europe qui est remis en cause, notamment autour de l'Ukraine. La solution, elle est dans l'air depuis un moment, désormais contenue dans ce livre. Mais il y a quand même ce chiffre, 80% de notre matériel est acheté aujourd'hui en dehors de l'Europe, principalement aux États-Unis. On parlera de la France spécifiquement, peut-être dans un instant. Si on exclut le problème financier, est-ce qu'on parle en décennies pour être à 27 dans un environnement industriel autonome ou pas?
Alors, attention à ce chiffre de 80%, parce qu'il est très contesté et très contestable. En fait, ce chiffre-là, il est critiqué souvent parce qu'en fait, il ne prend pas en compte ce que les États achètent à leur propre industrie de défense. Or, en Europe, on est un vieux continent, avec souvent des nations qui ont hérité d'industries de défense plus ou moins importantes, et qui achètent de manière plus ou moins importante à leur propre industrie avant de se tourner vers les autres. Il est vrai que les Américains récupèrent beaucoup de ce qui est acheté à l'extérieur ou par les nations plus petites. Néanmoins, les Européens achètent quand même beaucoup à leur propre système. Pour vous donner une image, on estime que depuis 2022, il y a plus de 50% des nouvelles commandes qui ont été passées à l'industrie européenne, 30% à l'industrie américaine, et le reste se répartit entre Turcs, Sud-Coréens et Israéliens.
Ah oui, donc c'est pas pareil. Donc quand même, la question tient, on parle en combien, est-ce qu'on parle en décennies pour être à 27 dans un environnement industriel autonome ou pas?
Alors, très compliqué évidemment de donner une réponse simple à cette question-là, vous en doutez, parce qu'on va parler de produits qui sont extrêmement différents. Ça va aller de choses très simples comme des munitions, des obus, même des véhicules blindés, à des systèmes beaucoup plus complexes comme des radars avancés, des missiles longue portée, et on n'est pas sur des temporalités similaires. On a déjà beaucoup de choses en tant qu'Européens, de choses qui sont disponibles maintenant à produire, on va dire. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir plus de faiblesses et on est pour le moment plus dépendant des Américains. Et il y a aussi des choses qui pourraient nous être fournies en fait par une ouverture sur le marché, par d'autres types de producteurs qui nous permettraient en fait d'équilibrer un peu entre les Américains et les autres. C'est déjà ce qui est en train de se passer.
Donc effectivement, alors on a des chars, le Léopard il est quasiment intégralement européen, on a des blindés, on a les Rafales, on a les Eurofighters, mais alors précisément, qu'est-ce qui nous manque en fait? L'urgence à développer, là où on n'est pas bon, c'est où?
Ce qui manque en général dans les armées européennes qui comptent, entre guillemets, qui ont une capacité à se déployer rapidement, ça va souvent être de l'épaisseur. Ça fait 30 ans que nos armées sont réduites à portions vraiment congrues. En France, on a par exemple fait le choix de garder vraiment un peu toutes les capacités, mais taillées au minimum.
Donc l'épaisseur, ça veut dire qu'on ne sait pas construire en masse pour l'instant. Il faut qu'on sache faire de
on
la masse,
faire,
en fait.
Mais on ne le fait pas.
Okay.
Pour survivre, l'industrie de défense, comme elle devait faire face à des grosses baisses de commandes, on lui a demandé de produire très lentement, et d'étaler les livraisons pour garder une chaîne active. Parce que quand vous arrêtez de commander un système, bah les compétences se perdent, les machines se perdent, et on ne peut plus relancer une chaîne de production. C'est un des problèmes qui se pose pour la France avec ses chars de combat à l'heure actuelle.
Donc on sait faire plus vite ou pas? Est-ce que ça veut dire que c'est une formalité, peut-être pas exagérée, mais que ouais, c'est facile en fait, c'est pas si compliqué?
C'est très clairement pas une formalité. Maintenant, c'est pas passer à l'économie de guerre, ce vocable, il n'a pas de sens. C'est simplement sortir d'un état de stase qui a été imposé, ou que l'industrie s'est imposée elle-même pour survivre dans les 30 dernières années. On sort de cet état de stase, on revient à un état normal où on produit pour autre chose que pour survivre. On produit pour répondre à un besoin. C'est pas très facile. Certains acteurs l'ont déjà fait. On a eu de gros progrès en 3 ans. L'Europe est quand même beaucoup moins désarmée qu'il y a 3 ans. On produit beaucoup plus de munitions, on produit beaucoup plus de systèmes d'artillerie notamment. Il y a eu un effort aussi sur les systèmes de défense antiaérienne à moyenne et courte portée. Donc nous ne sommes pas totalement démunis. Il faut bien comprendre qu'en européen, on a un potentiel de production qui est quand même très important pour peu qu'il soit activé.
Après, Léo Peria-Peigné, on était volontaire pour notre dépendance aux États-Unis. On l'était par nécessité ou est-ce qu'on l'était tout simplement financièrement parce que la mise en œuvre est tellement coûteuses parfois que c'est peut-être plus facile d'aller acheter auprès de quelqu'un qui sait déjà et qui l'a déjà. La vraie raison, c'était quoi ?
Alors, l'avantage de la France, c'est que nous ne sommes dépendants des États-Unis que sur des segments très particuliers qu'il aurait vraiment été absurde de développer nous-mêmes. On parle souvent de la catapulte des porte-avions qui permet d'envoyer les avions sur le Charles de Gaulle. Ça, il n'y a pas de marché pour ça. Parce que personne n'en utilise.
Mais parce qu'il n'y a pas très peu de pays qui ont des porte-avions.
Voilà, exactement. Donc ça, c'était logique d'en acheter aux États-Unis. Ils savaient faire, ils pouvaient nous en proposer. Bon, ça va être une question qui va se poser pour le prochain porte-avions. D'autres acteurs en Europe, d'autres nations en Europe, sont beaucoup plus dépendants des États-Unis sur beaucoup de segments. Ça va rarement être sur le segment terrestre, les blindés, les canons, ça, on sait à peu près faire. Ça va souvent être sur l'aéronautique. Le F-35, c'est la tête de proue, mais il y a tous les F-16 qui sont présents en Europe et le reliquat du F-18. Ça va aussi être le cas sur des systèmes de soutien. Des ravitailleurs aériens, des avions de guerre aériens, des systèmes de commandement et de contrôle sur les navires. Et aussi pour certaines munitions complexes comme des missiles. Par exemple, il faut savoir qu'en Europe, on ne produit pas à l'heure actuelle de lance-roquettes multiples comme les HIMARS dont on a beaucoup parlé pour l'Ukraine. Nous n'en avons pas de modèle européen. Nous devons acheter soit aux Américains, soit aux Sud-Coréens, soit aux Israéliens.
Est-ce qu'on sait faire des drones ? Parce qu'on a bien vu que la guerre aujourd'hui, c'était surtout ça. Est-ce qu'on sait faire des drones ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour les piloter ? Est-ce que si demain, je vais poser ces questions-là en cascade parce qu'elles sont, elles vont l'une après l'autre. Si demain Elon Musk décidait de couper le bouton off de Starlink, est-ce qu'on peut se débrouiller sans ? Est-ce que Galileo est aussi opérationnel que GPS, par exemple, dans toutes ces matières-là ? Est-ce qu'on sait faire ?
Alors, les drones, on aurait posé cette question-là il y a 8 ans, on aurait dit « Ah oui, regardez, on sait faire de très grands drones qui sont très lents à développer et qui ne volent plus aujourd'hui en Ukraine. » Ces drones-là, ils n'existent plus dans la guerre en Ukraine. On est passé sur des gammes très différentes, beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à produire, qui répondent à d'autres types de missions. Et là, on a un tissu au niveau européen d'entreprises de taille moyenne, en fait, qui savent faire ce genre de choses, qui en proposent beaucoup. Maintenant, le souci, c'est quel modèle on achète. Les drones qu'on utilise en Ukraine aujourd'hui, c'est pas les drones d'IA 2 ans. Mmh. Ça évolue très vite. Donc là, il y a un besoin aussi d'attendre et de voir venir, si vous voulez, pour être sûr de ne pas développer un truc en urgence
qui serait
risquerait
pas utile,
d'être
en fait.
Complètement obsolète. Mmh. Maintenant, pour la dépendance à Starlink.
Ouais.
Starlink, à l'heure actuelle, ça va beaucoup concerner les Ukrainiens qui l'utilisent pour leur communication, pour leur commandement, jusqu'au plus près du front. On a des alternatives en France, notamment comme Eutelsat, qui est une alternative
intéressante. Mais c'est ça la question, si demain Elon Musk coupe, est-ce qu'on peut dire à Volodymyr Zelensky, bouge pas, je peux te donner quelque chose en
échange. Encore une fois, c'est pas une sinécure. Hein,
ouais.
C'est les boîtiers Eutelsat sont plus performants en fait que les boîtiers Starlink, mais ils sont aussi plus chers et un peu moins mobiles. Donc c'est difficile, mais rien n'est jamais facile dans le domaine de la guerre. On n'est jamais prêt pour la guerre qui arrive, on peut juste essayer d'être au mieux pour s'y adapter le jour où elle éclate.
Alors vous l'avez dit, il reste beaucoup de F-35, des F-16, des F-18. Il y a aussi des commandes qui ont été prises et qu'il va de toute façon falloir honorer. Et puis il y a cette espèce de fantasme qui circule depuis plusieurs jours et qui dit, pour utiliser un avion américain, un F-35 par exemple, il faut que les Américains donnent leur quitus. Jusqu'à quel point ils donnent leur quitus, oui ou non ?
Il faut être très clair là-dessus. Je vous invite à vous référer au podcast Le Collimateur qui est sorti la semaine dernière avec Florence Saint-Victor qui explique très très bien ces choses-là.
Excellent podcast.
Je vais vous le résumer très brièvement. Dire que les États-Unis peuvent à distance éteindre le F-35 d'un coup, non. C'est plus complexe et aussi plus ennuyeux que ça. Les Américains ont la main sur, un, la logistique, les pièces détachées, sur un avion qui est extrêmement complexe. Si vous coupez l'accès à ces pièces détachées, on en produit certaines en Europe, mais c'est vraiment difficile.
Autre chose. Alors, ce que j'ai appris, moi, en écoutant ce podcast, parce que je l'ai écouté aussi, figurez-vous, c'est qu'effectivement, en termes de maintenance, par exemple, c'est eux qui savent à distance, attention, cette pièce-là, il va falloir la changer.
Voilà.
Si on est en bisbille à ce moment-là, que Donald Trump s'est retiré d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut se retrouver face à une situation, est-ce qu'ils ont le droit de dire, cette pièce, je ne vous la donne pas ?
Les États-Unis, en tant qu'acteurs monopolistiques, ont beaucoup de droits, et notamment ceux qu'ils veulent prendre, tout simplement.
Donc, ils ont le droit.
Ils peuvent
ne pas envoyer la pièce de rechange.
On ne va pas envoyer les États-Unis pour aller récupérer une pièce de réacteur.
Certes non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'évidemment, enfin, on parle d'un F-35, donc on ne peut pas mettre une pièce
on en produit
de rechange. Il n'y a pas une casse à...
L'intérêt du F-35, c'est qu'en Europe, on en produit une partie. L'industrie aéronautique italienne est très impliquée dedans. On ne produit pas tout, et surtout, je pense qu'on ne produit rien d'indispensable. Lockheed Martin, qui est le producteur principal et la plus grosse entreprise de défense du monde, peut nous remplacer, je pense, sans trop de difficultés. Maintenant, il y a aussi le fait que, comme vous avez déjà emmené votre voiture chez le garagiste, il a branché votre voiture sur ce qu'on appelle une valise, qui a fait un diagnostic de ce qui va pas, qui a fait de la maintenance prédictive, qu'est-ce qui va casser dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu'il faut remplacer. Il va aussi faire des mises à jour du logiciel, qui est extrêmement complexe. Ça, malheureusement, si vous n'avez pas accès à cette valise, à ces services de mise à jour pendant un certain temps, votre avion, il va déjà se dégrader. Et in fine, comme disait Florentin Nextor, il va se mettre en sécurité, ouais. Il risque de même plus pouvoir
décoller. Et s'arrêter, effectivement. Voilà. Mais est-ce qu'on parle, donc on parle évidemment des F-35 parce que c'est le plus symbolique, mais est-ce qu'on parle aussi de toute forme de pièces en fait, qui viendraient des États-Unis? En écoutant Ursula von der Leyen, elle dit il faut que 65% des pièces contenues dans le matériel soient américaines. Est-ce que ça veut dire que...
Européenne.
Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir ouvrir le capot de tout ce qu'on a, même quand ça vient des États-Unis, en disant attention, ça c'est pas à nous, donc il vaut mieux qu'on sache faire ça à l'intérieur de ça, etc., etc. Est-ce qu'il va falloir regarder chacun des objets que nous avons?
Alors, ça, c'est souvent lié à des questions d'export. C'est ce qu'on appelle les normes ITAR, les États-Unis. Si vous avez un composant ou un élément de propriété intellectuelle américaine dans votre système, ils peuvent vous empêcher de le réexporter. Mmh. C'est moins complexe, on va dire, pour
ITAR
l'utilisation.
ITAR et ITAR-free, d'ailleurs, voilà. J'ai appris ça
maintenant,
également.
Encore une fois, en France, on a de la chance, on est relativement peu concernés. D'autres pays sont très lourdement concernés et vont avoir un gros travail à faire pour s'autonomiser. Et c'est un choix. Il y a des pays qui vont se dire, bah, peut-être que l'époque Trump, c'est une passade, et ça ira mieux plus tard, et feront peut-être le choix de ne pas s'engager sur ce chemin. Ça va être les enjeux des semaines qui viennent.
C'est normal, en termes de défense, de vouloir avoir un droit de regard sur ce qu'on va faire avec les missiles qu'on a vendus, évidemment, pour éviter qu'ils se retournent contre soi, j'imagine, et puis aussi qu'on aille bombarder des civils, etc. Donc, ma question, au fond, ressemble un peu à celle sur les F-35. Est-ce qu'à un moment, l'un des risques n'est pas de se retrouver avec du matériel que nous avons acheté en Europe, qui est un matériel américain, mais dont on nous dit « attention, désormais, ce matériel-là ne pourra pas être utilisé sur le sol ukrainien, encore moins sur le sol russe ».
Les Américains ont beaucoup de moyens de pression, les pièces, ça en fait partie, ils ont des moyens de pression beaucoup plus directs. Hein. Une grosse partie de la défense antiaérienne moderne de l'Europe, elle se base sur des systèmes patriotes. Si les Américains disent du jour au lendemain « on arrête de vous livrer des munitions », sachant que nous ne produisons pas ces munitions-là en Europe, ça va être très difficile.
Et je pense au système de guidage aussi. Un missile sans système de guidage, si le système de guidage est géré par les Américains, c'est un gros bout de ferraille.
Alors là, je pense qu'on va dans des considérations peut-être un peu trop techniques pour ce soir. Il y a un ensemble d'enjeux qui sont extrêmement complexes. Je n'en maîtrise moi-même qu'une petite partie. Mais je vous invite vraiment à vous référer au podcast dont on a parlé. Mais je pense qu'il va un peu plus loin dans les détails. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien.
Et ben écoutez, si vous êtes amateur effectivement de grands détails militaires, allez-y. En tout cas, vous nous avez éclairé, Léo Péria-Peignet. Pardon, merci beaucoup, vous êtes chercheur armement et industrie de défense à l'IFRI.
Merci beaucoup. Mille fois.
La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Ça se passe en Irak, où les Kurdes célèbrent le nouvel an entre paix, espoir et doute aussi que la paix se réalise. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a d'abord Kevin Dufresne sous les radars.
En Équateur, une fuite massive sur un oléoduc et plus de 500 000 personnes polluées.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madbon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Et si les États-Unis abandonnaient totalement l'Europe, on verra que ce scénario est possible. Il est même théorisé par certains intellectuels.
Ça poursuivra notre discussion. Le mercredi, c'est la BO du monde et c'est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Un film aujourd'hui qui nous emmène en 68 dans les locaux de Radio Prague où une poignée de journalistes se battent pour déjouer la censure de Moscou. Ça nous rappelle quelque chose.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par où? Bah, j'ai oublié par où il passait, mais c'est pas grave. Voilà, voici Green Tipping. Le voilà, Peng. La voilà, One Foot. Elle est londonienne. Dans l'ordre, ça devrait aller. I'm one foot front and back again. Don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to surf, my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Foot front and back again. That's just a comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me? Yeah. Le reportage ce soir est en Irak avec des Kurdes qui vont célébrer, comme toutes les communautés kurdes, le nouvel an. Ça commence demain. Une fête qui parle espoir cette année, puisque le fondateur de la guérilla kurde du PKK a appelé les combattants à rendre les armes, vous vous en souvenez, à faire la paix aussi avec la Turquie. Espoir, mais aussi beaucoup de doutes. En Irak, le camp de Marmour accueille 8000 réfugiés kurdes qui ont fui leur village de Turquie. Il y a longtemps, dans les années 90, les hommes de ce camp ont souvent servi de combattants à la guérilla. Alors l'idée de la paix, on y pense, on en rêve, sans savoir si elle deviendra concrète. Le reste, c'est Lucas Lazo qui raconte.
Dans la plaine battue par les vents du désert, les réfugiés kurdes de Marmour vivent sous bonne garde de l'armée irakienne. C'est qu'ici, la figure d'Abdullah Öcalan est révérée et la résistance à la Turquie s'enseigne dès les bancs de l'école où les élèves révisent leurs leçons sous les portraits du fondateur du PKK. Kani, 14 ans, interrompu dans son cours d'anglais, explique vouloir voir advenir cette paix dont parlent les adultes.
Je rêve de découvrir les montagnes et les rivières du Kurdistan turc. On en a tellement entendu parler. Je crois que tous les enfants de Marmour espèrent y aller un jour.
Ces écolières sont toutes nées dans l'exil du Kurdistan. Elles ne connaissent que les histoires que leur racontent leurs parents, contraints de fuir leur village dévasté par l'armée turque au début des années 90. La voisine de Kani a le regard qui s'illumine à la perspective du retour.
Si le processus de paix est un succès, je souhaiterais aller à l'université. Nous, les élèves de Marmour, nous avons tous un grand potentiel et de grands rêves. Nous souhaiterions faire plein de choses pour servir notre société et le monde, mais nous n'en avons pas l'opportunité.
Un vœu pieux pour l'heure. En effet, les pressions qu'exerce la Turquie sur les autorités locales ferment à ses collégiens les portes des universités irakiennes. Les élèves se réunissent dans la cour pour entonner un hymne patriotique, comme un défi dans ce camp régulièrement visé par des bombardements turcs. La directrice de l'école dénonce une situation qui rend la vie de ses étudiants impossible et conditionne leur avenir.
Après nous avoir obligés à quitter notre pays, la Turquie poursuit ses attaques contre nous. Les écoliers du camp sont terrifiés, ils font des cauchemars du bruit des bombardements. Ça affecte leur état psychologique. Ils se demandent pourquoi on nous attaque. Alors s'engager dans la résistance leur vient naturellement à l'esprit.
Le camp de Marmour, qui compte 8000 habitants, a donné plus de 500 de ses enfants à la cause kurde. Le dernier est mort au mois de février 2025, au cours de combats au Kurdistan irakien entre le PKK et la Turquie. Leur mémoire est célébrée dans la Maison des Martyrs, une pièce étouffante où les murs sont placardés de portraits juveniles.
C'est mon fils, Diyar.
Saria, 60 ans, le visage creusé par les rides, nous désigne la photographie d'un garçon disparu il y a 2 ans.
Personne ne souhaite apprendre la mort de ses enfants. Mais parfois, il faut accepter ce sacrifice. Le mal que nous fait la Turquie est intolérable. En tant que maman kurde, nous sommes obligés d'accepter que nos enfants puissent mourir pour la liberté des Kurdes.
Le second fils de Saria, Baroz, a suivi les pas de son grand frère sur les sentiers de la guérilla. Alors pour cette mère, le processus de paix fragile qui s'amorce entre la Turquie et le PKK suscite le vain espoir de voir revenir son garçon.
Qui ne souhaiterait pas revoir son enfant ? Öcalan a appelé à la paix et je souhaite que ce processus réussisse. Mais nous ne pouvons pas faire confiance à la Turquie. J'aimerais que Baroz puisse revenir, mais sans la liberté des Kurdes, ce sera trop difficile pour lui de rentrer.
Si la guérilla kurde a décrété un cessez-le-feu le 1er mars, les bombardements turcs se poursuivent sur les positions des insurgés retranchés dans les montagnes kurdes. De quoi faire douter les jeunes de Marmour réunis le soir au coin du feu, à l'image de Dylan, 25 ans.
Est-ce que la Turquie va répondre à l'appel d'Öcalan ? Le PKK a fait le premier pas. Mais la Turquie souhaite-t-elle la paix ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Nous attendons leur réaction.
Entre deux chansons traditionnelles pour ce nouvel an kurde, Dylan reconnaît qu'elle n'a pas tout à fait compris le sens du message d'Abdullah Öcalan.
L'appel à désarmer et dissoudre le PKK, ça ne m'a pas vraiment plu. Le PKK, c'est devenu notre identité. Alors c'est difficile à accepter. Même si je pense qu'Öcalan a annoncé ça dans l'intérêt des Kurdes.
À Marmour, où la résistance est un héritage, l'espoir de rentrer un jour au Kurdistan de Turquie se dispute à la crainte de voir le processus de paix s'enrayer.
Lucas Lazo, pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord en Équateur que nous sommes, Kevin, avec une catastrophe écologique.
Oui, des nappes noires à la surface des cours d'eau, des animaux, des bateaux, des pêcheurs souillés par le pétrole. Ça se passe dans le nord-ouest du pays. En fin de semaine dernière, un glissement de terrain a provoqué la rupture du principal oléoduc du pays. Résultat, 200 000 barils, soit l'équivalent de plus de 30 millions de litres de pétrole brut, se sont déversés dans 5 rivières, la plus grande étant l'Esmeraldas qui débouche sur le le Pacifique. L'état d'urgence environnementale a été déclaré dans la région, où se trouve une zone protégée abritant plus de 250 espèces pour certaines protégées. Environ 500 000 personnes sont privées d'eau potable en raison de cette pollution. Trois navires remplis d'eau doivent d'ailleurs arriver dans les prochaines heures dans le port d'Esmeraldas. Beaucoup d'habitants de la région dépendent de la pêche, désormais impossible. La catastrophe est donc aussi économique, d'autant que l'exportation de pétrole est l'une des principales richesses de l'Équateur, qui produit près de 500 000 barils par jour. Exportations qui sont pour le moment en partie suspendues.
Et nous voici à Hong Kong, où le visage des chantiers va changer.
Ah oui, vous avez peut-être déjà vu ces impressionnantes tours d'échafaudage en bambou utilisées pour construire les gratte-ciels caractéristiques de l'île. Eh bien, ils vont bientôt disparaître. Les autorités de la région viennent d'annoncer la fin progressive de cette technique utilisée depuis des siècles. Mais leur utilisation pose de gros problèmes de sécurité. Les chiffres officiels recensent 23 ouvriers morts dans des accidents du travail sur des échafaudages en bambou depuis 2018, des structures qui se sont effondrées ou ont pris feu. Si ce type d'échafaudage a perduré, c'est surtout en raison de son prix bas dans une région où le bambou foisonne. Le bambou est aussi facile à monter, à démonter et à transporter.
Et puis nous voici au Fidji, en pleine forêt tropicale.
Où vivent des iguanes. Vous me direz, rien d'exceptionnel, sauf que depuis longtemps, les spécialistes se demandent comment ils sont arrivés là, puisque la plupart de ces reptiles vivent en Amérique et qu'un océan sépare le continent de l'archipel du Pacifique. Et bien d'après des scientifiques qui viennent de publier un article dans la PNAS, la revue de l'Académie nationale des sciences américaines, il est possible qu'ils aient pris, il y a 30 millions d'années, un radeau. Alors évidemment, ils ne l'ont pas construit avec leurs petites pattes, mais imaginez une tempête, un cyclone qui déracine des arbres en Amérique. Un groupe d'iguanes se trouve dessus et dérive ainsi jusqu'au Fidji. C'est l'hypothèse défendue et documentée par les auteurs de l'étude. En analysant les gènes de 14 espèces d'iguanes, ils se sont rendus compte que ceux du désert d'Amérique du Nord et ceux des Fidji étaient très proches. De plus, les iguanes peuvent passer énormément de temps sans boire. Et si un tel voyage a eu lieu, il a duré plusieurs mois. Il y a quand même 8000 km, ce qui serait un record historique pour un vertébré.
Voilà, le radeau de l'iguane. Très belle peinture. Kevin, merci beaucoup. Vous partez en passant par Addis Abeba. Il va falloir un plus gros bateau.
Oui, un petit peu.
Mahmoud Ahmed et Rémé Lamela. Ça veut dire je cherche une solution. Merci de passer la soirée avec nous. Remela Mela, signé Mahmoud Ahmed sur France Inter et de Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you? The world has
changed. Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, hier, Poutine n'a pas fait de concession majeure lors de son échange téléphonique avec Trump. Les discussions doivent se poursuivre entre Américains et Russes. Ce soir, vous nous dites pourquoi on ne peut pas exclure l'abandon de l'Europe par les États-Unis au profit de la Russie.
Alors c'est le scénario cauchemar pour les Européens, on en est encore loin. En un sens, le coup de fil Trump-Poutine d'hier est plutôt une bonne nouvelle pour l'Ukraine et l'Europe. Certes, la Russie ne fait pas de concessions, n'accepte pas un cessez-le-feu, mais Trump n'a pas stoppé l'aide à l'Ukraine, en tout cas pas encore, et se dit sur la bonne voie après son entretien d'aujourd'hui avec Zelensky. Et pourtant, l'hypothèse d'une Amérique abandonnant l'Europe aux appétits russes reste une possibilité. Ce scénario est théorisé par un intellectuel sulfureux dont les idées sont diffusées au plus haut niveau de l'État, Curtis Yarvin. Ce penseur néo-réactionnaire est régulièrement cité par le vice-président américain J.D. Vance. En résumé, il estime que la démocratie a échoué partout et prône un système monarchique. La revue Le Grand Continent a publié samedi la traduction d'un texte de Yarvin sur l'Ukraine écrit en janvier 2022, un mois donc avant l'invasion russe, texte étrangement prémonitoire.
Alors, que dit ce texte ?
Eh bien, Curtis Yarvin explique pourquoi, si l'Ukraine est attaquée, les États-Unis ne sont en rien tenus de la défendre. De son point de vue, l'Ukraine est à peine moins russe que le Texas n'est américain. Washington n'a rien à gagner à aider l'Ukraine. Chaque nation est indépendante, écrit-il, et si une puissance échoue, elle disparaît. Nous sommes donc en 2022. Yarvin mise alors sur un retour de Trump à la Maison-Blanche, bien vu. Il prédit que le milliardaire voudra d'abord marquer son territoire en politique étrangère, et il lui suggère de donner à la Russie carte blanche en Europe.
C'est-à-dire ?
Eh bien, pour Yarvin, les États-Unis doivent se retirer totalement de l'Europe. Plus de soldats américains sortis de l'OTAN, même le commerce est facultatif. Les États-Unis ayant un déficit commercial avec l'Europe, après tout, l'arrêt des échanges les rendrait encore plus riches. Cette Europe post-Trump deviendrait un laboratoire de la réaction, écrit-il. Les partis nationalistes, illibéraux, prendraient le pouvoir dans les vieilles nations du continent. Alors c'est une thèse radicale qui peut paraître fumeuse, mais elle n'est pas absurde à la lumière des déclarations très hostiles à l'Europe de l'administration Trump. Ce scénario fait écho aux théories pro-Poutine développées à Moscou. Il faut lire à ce sujet l'interview cette semaine dans l'Express de Vladislav Surkov, l'inventeur du poutinisme, l'homme qui a inspiré, vous le savez, le magnifique roman Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli.
Et Surkov tient le même discours que Yarvin.
Eh bien, presque, figurez-vous. Les deux hommes défendent tous deux les systèmes autoritaires, la verticale du pouvoir. Pour Surkov, le monde russe n'a pas de frontières. La Russie a vocation à s'étendre jusqu'à la Manche. L'UE, elle, a grossi trop vite. Seuls les poutinistes et les trumpistes peuvent la revitaliser. D'après le mage du Kremlin, il est évident qu'idéologiquement, Trump est plus proche de Poutine que de Macron. Encore une fois, Fabienne, les négociations à venir pourraient très vite envoyer aux oubliettes les théories de ces penseurs radicaux, mais ces deux intellectuels n'appartiennent plus aux marges aujourd'hui. Ils ont eu ou ont encore de l'influence dans les cercles du pouvoir à Washington et à Moscou. Les lire nous rappellent que Poutine méprise l'Europe, dont les liens avec les États-Unis de Trump ne cessent de se distendre.
Franck Madvon, merci beaucoup. À demain. Allez, c'est à nous, Corinne Pellissier. Le cinéma en VO, c'est maintenant.
Moteur. France Inter. Un jour dans le monde.
My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, boží nestojíte.
Do budovy nám vlítla státní bezpečnost.
A jedem, jedem, všechno krampě!
Radio Prague, les ondes de la révolte, un film pour évoquer aujourd'hui un chapitre douloureux de l'histoire de la République tchèque. Corinne, la répression du printemps de Prague par l'armée russe, c'était en 1968. Un film signé d'un jeune réalisateur, il s'appelle Jiří Madel, et il raconte les événements depuis la salle de rédaction de la radio politique du pays, un peu comme une piqûre de rappel, parce que la résonance avec l'actualité géopolitique aujourd'hui est assez troublante.
C'est un film qui a rencontré beaucoup de succès en République tchèque, où il a cumulé déjà plus d'1 million millions d'entrées, sans doute d'abord parce que l'agression de l'Ukraine a ravivé dans le pays un sentiment anti-russe assez fort, et puis parce que les épisodes pas si lointains qu'aborde ici Jerrid Madel nous rappellent aussi à quel point la liberté est fragile. Avant de faire du cinéma et de signer à 38 ans son premier film, il avait entrepris des études pour devenir journaliste, et c'est finalement assez naturellement qu'il s'est emparé de cette histoire qui raconte la répression du printemps de Prague depuis la salle de rédaction de la radio publique de son pays. C'est un film inspiré de faits réels qui met en scène des personnages qui ont existé, comme le rédacteur en chef Milan Weiner, le tout premier à avoir réussi à imposer d'utiliser les dépêches publiées par les agences de presse étrangères plutôt que les fameuses nouvelles officielles dictées par la Russie. Jerrid Madel, qui a grandi bien après les faits qui sont relatés dans le film, pensait comme beaucoup dans son pays tout connaître sur la période. Et bien, en faisant ses recherches, il a été surpris.
Chaque famille dans son histoire a quelque chose à raconter sur les événements de l'époque, sur les soldats, les chars dans les rues, ce qui s'est passé, qui a tiré. J'avais moi aussi l'impression de tout savoir. Et puis je suis tombé sur ce livre qui raconte notamment l'histoire de la radio tchécoslovaque. Et il y avait ce chapitre qui tient sur 17 pages et qui m'a stupéfait. L'histoire des journalistes qui travaillaient à l'intérieur du bâtiment et dont je n'avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai cherché à en savoir plus. Je me suis dit que ce serait sans doute un bon matériau à intégrer dans le film. On ne parle pas ici d'une foule ou d'une nation, mais d'individus courageux qui peuvent vraiment changer l'histoire. Ils ont tout risqué. Ils savaient qu'en parlant dans la radio et au moment où leur voix serait diffusée, ils risquaient d'être emprisonnés, voire tués. Aujourd'hui encore, vous trouverez des lâches. C'est facile, dans une nation, de trouver des gens réticents ou paresseux. Mais lorsque vous croisez comme ça des personnalités inspirantes, tout peut toujours s'améliorer. On a tous quelque chose à accomplir.
Alors ensuite, dans le film, le parcours de Thomas, un jeune technicien embauché à la radio publique de Prague, témoin chaque jour du combat de ces journalistes pour échapper à la censure, dénoncer à l'antenne la propagande du régime à la botte de Moscou. Ils vont connaître en quelques mois la joie d'un côté d'une censure abolie, et puis dans les semaines qui suivent, le retour de bâton, les intimidations, l'arrivée des chars, le bâtiment encerclé, les arrestations, avec des chiffres qui font froid dans le dos, le cinéaste nous les rappelle. 5800 exécutions, 1 300 000 prisonniers politiques, des millions de vies brisées.
Et pour nous rappeler, Corinne, que tout ça n'est pas de la fiction et que de tels événements peuvent à nouveau se produire, Jerrid Madel utilise aussi beaucoup d'images d'archives.
Voilà, le résultat à l'écran pourrait avoir un peu plus de souffle. Le film est pensé comme un thriller, mais pâtit un peu d'une forme académique et très didactique. Mais c'est un premier film, il faut être indulgent. Le récit, lui, est très efficace, grâce notamment à ses archives, avec une valeur de mise en garde on ne peut plus pertinente à la lumière de l'actualité récente. Pour Jerrid Madel, ce film est aussi un manifeste pour protéger la presse sans cesse malmenée.
Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'histoire ne se répète pas. Nous avons des films, nous avons des livres, le soutien de la technologie, tout ce qu'on veut. Il faut juste rester attentif et commencer à se protéger. Parce que la démocratie ne peut pas se protéger toute seule, que ce soit au niveau des frontières ou de l'idéologie. Quand on regarde autour de soi, on a l'impression que le monde est devenu fou et on mesure à quel point il est important d'avoir une source d'information pertinente. À quel point il faut défendre la presse sans cesse attaquée. Pour moi, le mal est toujours là. Il utilise juste des outils différents. À l'époque du film, ils utilisaient de fausses lettres pour influencer l'opinion publique et faire chanter les gens. Aujourd'hui, c'est Internet. Le mal est éternel. Le bien, lui, doit être nourri en permanence.
Radio Prague, les ondes de la révolte. Corinne Pellissier, merci beaucoup. Sto Cinéma, dès aujourd'hui.